en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, pour cette nouvelle émission en habit vert, je vous propose de vous intéresser à un éminent médecin à la double casquette de cardiologue et de chercheur en cardiologie, le professeur André Vacheron. Il a vu arriver au cours de sa carrière des techniques révolutionnaires, la défibrillation, ces chocs électriques externes qui remédient aux urgences des arrêts cardiaques, à l'arrivée des pacemakers dans les années 80 ou encore à l'utilisation de la scintigraphie dans le cadre de la médecine nucléaire, ceci pour vous donner quelques exemples. Il va nous raconter dans quelques instants son parcours, ses joies et ses peines de cardiologue, ses rencontres et ses combats actuels. André Vacheron, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation au studio de Canal Académie. Vous êtes docteur en médecine, agrégé de cardiologie, ancien chef du service de cardiologie à l'hôpital Necker et professeur émérite de clinique cardiologique à la faculté de médecine de Paris, membre de l'Académie nationale de médecine et de l'Académie des sciences morales et politiques. André Vacheron, je crois que vous exercez toujours en tant que cardiologue. Vous recevez des patients en consultation. Est-ce que la retraite vous fait peur ?
Non, la retraite ne me fait pas peur. Je ne suis pas en retraite. Et donc, en restant actif, je pense que l'on ne pense pas à la retraite. Et pour moi, la retraite viendra un jour, probablement quand physiquement je serai un peu trop fatigué pour continuer l'exercice d'une médecine que j'adore, qui a été ma passion toute ma vie et qui reste ma passion. Et pour moi, la meilleure façon de bien vieillir, c'est de rester actif et de continuer à travailler.
Très bien. Alors écoutez, si vous le voulez bien, on va commencer par parler de votre enfance et de votre climat familial. Commençons par la Seconde Guerre mondiale, où vous étiez enfant à cette époque-là. Quel a été votre regard d'enfant ?
La Seconde Guerre mondiale a été pour moi une série de déplacements. J'étais né à Paris, car mon père, qui était ingénieur des mines, avait souhaité que l'accouchement de sa femme se déroule dans les meilleures conditions possibles. Il dirigeait une mine de charbon dans le Nord-Pas-de-Calais, très exactement à Hénaliétard, et il est évident que cette petite ville minière n'avait pas tous les équipements souhaitables pour assurer un accouchement dans les conditions de sécurité optimales à l'époque. Et donc, je suis né à Paris, dans une clinique qui est située près du Jardin des Plantes, qui est la clinique Geoffroy Saint-Hilaire, et je suis né entre les mains d'un excellent accoucheur qui était tout à fait renommé à l'époque. Alors, je suis reparti bien évidemment grandir dans le Nord-Pas-de-Calais, dans cette mine d'Hénaliétard que mon père dirigeait, c'était la fosse 7 à Dourges, et je suis tout petit descendu au fond de la mine, en tenant la main de mon père avec l'équipement de mineur et le casque de mineur et une petite lampe que mon père avait fabriquée à mon intention. Et j'ai visité à plusieurs reprises des galeries à plusieurs centaines de mètres sous terre, toujours admiratif de mon père qui était salué avec beaucoup de respect par ses mineurs. Mon père s'astreignait à descendre tous les jours au fond de la mine. Il n'eut jamais d'accident pendant sa chefferie de mine là-bas à Hénaliétard. Et puis la guerre est arrivée. La guerre est arrivée en 1939, la Seconde Guerre mondiale. Et mon père, qui avait vécu une partie de la guerre de 14 sous les bombardements à Cambrai, mon père voulait nous éloigner du front et il nous fit partir à Caen. À Caen, en 1939, où ma sœur est née à ce moment-là. Et nous sommes restés quelques mois, puisque un petit peu plus tard, donc dans les années 40, nous sommes repartis pour l'Auvergne, car bien sûr, l'occupation avait envahi la moitié de la France. Alors je suis allé en Auvergne, dans le village de demi-montagne qui était celui de mes aïeux paternels, et j'ai découvert à ce moment-là l'école communale avec tous les enfants du village groupés dans une même classe sous la houlette d'une vieille institutrice qui s'occupait de différentes sections de cette population d'enfants et qui nous apprenait très soigneusement une matière qui a quasiment disparu des programmes à l'heure actuelle, qui est l'instruction civique. Et puis l'été, nous allions nous promener sur les contreforts de la montagne où il y avait de superbes genêts d'or que je n'ai pas oubliés. Et puis, mon père nous ayant laissés là pendant 2 ans, nous a rapatriés à Paris où il occupait des fonctions d'ingénieur à la direction de la sidérurgie. Il avait voulu quitter les mines du Nord-Pas-de-Calais pour ne pas rester, pour ne pas travailler sous les ordres de l'occupant allemand.
Alors très vite, vous revenez à Paris.
Alors je suis revenu à Paris à la fin de l'année 1942. Avec donc ma mère et ma sœur. Et je suis entré en 7e, en classe de 7e au lycée Voltaire de Paris, où j'ai accompli toutes mes études secondaires. J'ai été reçu à la première partie du baccalauréat à 16 ans, à la seconde partie à 17 ans, et je dois rendre un grand hommage à mon père qui, rentrant le soir de son ministère de la sidérurgie, de son ministère de l'industrie, mon père s'occupait beaucoup de moi, veillait à ce que mes travaux, mes devoirs soient bien faits, et il m'a appris la précision, il m'a appris l'exactitude, il m'a appris la persévérance, qui sont tout à fait indispensables pour progresser dans la scolarité et après à l'université.
Avant de devenir médecin, vous souhaitiez vous engager dans la marine.
Oui.
Pourquoi ne vous êtes-vous pas engagé dans la marine ?
Eh bien, j'aurais été heureux de préparer l'école navale, mais ma vision me l'interdisait. Ce qui est admirable chez les marins, c'est qu'ils entrent à l'école navale avec des yeux parfaits et que souvent, au bout de 2 ou 3 ans, on les trouve avec des lunettes. C'est comme ça. Alors donc, la marine m'étant fermée, je l'ai d'autant moins regretté que finalement, je n'étais quand même pas... J'étais bon, mais pas particulièrement brillant en mathématiques. Il fallait vraiment être bon en mathématiques pour se présenter au concours d'entrée de l'école Laval. À ce moment-là, j'ai décidé de devenir médecin. Pourquoi de devenir médecin? Parce que, au cours de mon cursus de lycéen, je lisais un petit peu des ouvrages sur la médecine et j'avais découvert les progrès merveilleux de la médecine qui avait déjà, dans cette période de Seconde Guerre mondiale, bien maîtrisé beaucoup des maladies infectieuses des siècles précédents et puis qui était capable de ramener à la vie un malheureux qui était en train de mourir. Et ça, c'était vraiment pour moi quelque chose d'extraordinaire.
Là, c'est pourquoi la médecine, mais alors pourquoi la cardiologie ?
Ah ben ça, je vais vous le dire après. Je vais vous le dire après. D'abord, j'ai fait mon PCB, c'était l'année préparatoire à la médecine, à la faculté des sciences, près du Jardin des Plantes. Et c'est une année qui s'est parfaitement déroulée, parce que j'en suis sorti second de ma promotion. Ensuite, je suis entré en première année de médecine à la vieille faculté de médecine rue de l'école de médecine. La faculté des Saint-Père n'existait pas encore. Et l'année a été dure. On était vraiment... À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, les enfants n'avaient pas été bien nourris. Les stages hospitaliers occupaient toutes les matinées et les cours avec les examens et occupaient bien les après-midi. J'ai été reçu tout à fait normalement aux épreuves de juin et je me suis retrouvé avec une tuberculose pulmonaire qui m'a envoyé au sanatorium des étudiants de Saint-Hilaire-du-Touvet où j'ai passé ma 20e année.
Donc vous faites 2 ans à Grenoble ?
Alors j'ai fait 2 ans à Grenoble, 1 année en sanatorium. 1 année en post-cure, dans une post-cure des étudiants qui étaient à La Tronche, un des faubourgs de Grenoble, et je n'ai pas baissé les bras. J'ai continué mes études médicales en étant, pendant l'année de sanatorium, allongé, et pendant l'année de post-cure, en pouvant reprendre quelques stages, et j'ai pu passer ma 2e et ma 3e année de médecine à Grenoble, donc sans perdre de temps. Et je suis revenu à Paris en 4e année de médecine. On m'avait prédit un avenir de médecin de sanatorium parce qu'après, on était quand même assez, je dirais, plombé, entre guillemets, par cette maladie qui était grave, qui nécessitait plus d'un an d'antibiothérapie extrêmement intensive. Et j'ai repris donc la 4e année de médecine à Paris en me disant que je ne serais jamais médecin de sanatorium. J'avais trouvé ça tout à fait attristant et déprimant. Mais que je voulais essayer la voie des concours. Alors à l'époque, il y avait 2 concours hospitaliers. Il y avait l'externat des hôpitaux, qui vous permettait déjà d'avoir une fonction presque statutaire. Et puis, il y avait surtout l'internat des hôpitaux de Paris, qui avait la difficulté d'un concours d'entrée de grande école, comme Polytechnique ou Normale supérieure, puisque quand j'ai passé mon concours en 1959, j'ai été reçu à ma 2e tentative au concours de 59, il y avait 180 reçus, parmi 1888 candidats. 1888 candidats qui avaient déjà subi le concours de l'externat. Donc c'était un concours extrêmement dur et très sélectif. Et on disait qu'il ouvrait la voie royale du professorat.
Vous entrez donc internat pluridisciplinaire ?
Alors je suis rentré dans un internat pluridisciplinaire avec un changement de service tous les 6 mois. J'ai fait de la médecine interne à Bicêtre d'abord, où j'ai rencontré une jeune fille qui s'appelait Françoise Baglin, et qui est devenue ma femme, qui m'a donné 5 enfants, qui est devenue médecin aussi. Et puis après, je suis passé en diabétologie, en pneumologie, en gastroentérologie, en endocrinologie, en allergologie, avec un patron plein de fougue qui était René Wolfram, qui voulait que je sois son assistant, puis plus tard peut-être son successeur. Et puis je suis passé en hématologie et en cardiologie. Et ces 2 disciplines où je voudrais un petit peu m'attarder, parce que j'ai rencontré dans ces deux disciplines les maîtres qui sont véritablement les patrons qui m'ont formé.
Jean Bernard ?
Alors Jean Bernard, oui, Jean Bernard était à l'époque le pape, et toujours le pape des maladies du sang. Jean Bernard était à l'hôpital Saint-Louis, c'était un homme remarquablement intelligent, un grand penseur, qui a été à l'Académie de médecine, à l'Académie des sciences,
à l'Académie française.
Et qui m'a permis de développer un certain nombre de qualités, la rigueur du raisonnement, la hiérarchisation des problèmes, et puis aussi l'attention à l'autre. L'attention à l'autre, les gestes qui réconfortent, les mots qui redonnent l'espoir. Et Jean Bernard était non seulement un éducateur scientifique, vraiment un grand professeur de médecine, mais c'était également un professeur d'humanité. Il m'a pris à visiter tous les malades dont j'avais la charge. Et cette charge, cette visite régulière de mes malades, je l'ai continuée toute ma vie, même quand je suis devenu le chef d'un service de 71 îles à l'hôpital Necker. Je voyais tous mes malades durant la semaine, les uns après les autres. Je visitais salle par salle et je voyais tous mes malades. Et Jean Bernard, qui avait le gène de l'exactitude, le gène de la ponctualité, m'a appris à assurer régulièrement mes consultations. Il m'a appris à être là quand on avait besoin de moi et à ne pas être à 50 km de Paris ou à disparaître en week-end ou pendant un été prolongé. Il m'a appris à recevoir les familles, il m'a appris à dialoguer avec les patients, à recevoir les confidences, à les écouter, à redonner l'espoir. Et Jean Bernard avait une formule choc que je n'ai jamais oubliée. Il disait que le grand malheur pour un malade, c'est d'être soigné par un médecin ignorant.
Il vous a appris à vous vouer complètement à vos patients.
Voilà. Jean Bernard m'a appris à me vouer complètement à mes patients. Et il m'a appris ce qu'un vrai médecin doit être, c'est-à-dire un humaniste et pas seulement un technicien.
Un autre nom ?
Alors l'autre nom, eh bien, c'est celui de Jean Di Matteo. Jean Di Matteo, c'est lui qui m'a transformé en cardiologue. Jean Di Matteo avait été formé par deux grands piliers, deux grands maîtres de la cardiologie, Charles Laubry, qui avait présidé l'Académie de médecine en 1956, et Pierre Soulier, qui était un autre grand maître de la cardiologie du XXe siècle, qui était lui aussi un patron assez extraordinaire. Alors Jean Di Matteo, je l'ai rencontré de façon assez curieuse. J'avais déjà fait un bon parcours chez des grands patrons, notamment chez Jean Bernard, et puis chez d'autres patrons comme Brouet, qui était le maître de la pneumologie. Et Jean Di Matteo m'a accueilli quand il était le patron d'un petit service qu'on appelait les bains-douches à l'Hôtel-Dieu. Et là, il m'a dit, si vous voulez me suivre, eh bien, nous ferons carrière ensemble. Il n'était pas encore professeur. Son ouverture d'esprit, son intelligence m'ont décidé à le suivre. Alors que j'aurais pu, effectivement, aller chez René Wolfrom, qui était le maître de l'allergologie, aller chez Jean Bernard, qui était le maître de l'hématologie. Je me suis dit, après tout, c'est un patron qui est jeune, qui en veut, et je l'ai suivi. Alors, il m'a appris beaucoup de choses, lui aussi, comme Jean Bernard. Il m'a appris d'autres éléments. Il m'a appris la clarté, il m'a appris la concision, et ces deux éléments qui permettent la transmission de la connaissance. Sans clarté, sans concision, on n'est pas un bon enseignant. Et on n'est pas un bon professeur de médecine. Et ça, c'est très important. Et pour nous, la connaissance, elle a deux sources. Elle a l'étude et elle a l'expérience. Et Jean Di Matteo m'a appris qu'il fallait non seulement étudier, parce qu'on n'invente rien en médecine. Vous vous trouvez devant un rougeoleux qui est couvert de petites taches rouges, vous ne savez pas que c'est la rougeole. Si vous n'avez pas appris que l'éruption est faite de petites macules rouges séparées par des intervalles de peau saine. Si vous ne l'avez pas appris, vous regarderez un enfant qui est plein de petites taches rouges, vous ne saurez pas que c'est la rougeole. Donc il faut d'abord l'avoir appris. La médecine, c'est une série de pavés sur lesquels on pose les pieds et sur lesquels on s'accroche pour après exercer son métier. Et puis, le deuxième pilier du médecin, c'est l'expérience. Il est évident que quand on n'a pas toujours, on n'est pas toujours dans le bon chemin, on peut se tromper, on a malheureusement des échecs dans le métier de médecin. Eh bien, ça, c'est l'expérience. Et quand on a eu un échec, quand on a eu un dérapage, on se rappelle ce qui s'est passé et on évite de recommencer.
C'est ainsi que vous êtes devenu cardiologue ?
Alors, je suis devenu cardiologue et Jean Di Matteo était cardiologue, comme je vous le disais. Et nous avons créé, à Necker, un service de cardiologie qui est devenu petit à petit l'un des plus grands et des plus beaux services de cardiologie de Paris et de France.
Je vous propose de marquer une courte pause, si vous voulez bien, André Vacheron. On se retrouve dans quelques instants pour justement retourner à l'hôpital Necker. À tout de suite.
Il est l'un des plus grands anthropologues du XXe siècle. Nous célébrons son entrée dans la Pléiade. Canal Academy rend hommage à Claude Lévi-Strauss. Qui se cache derrière le scientifique ? Écoutez les témoignages de personnalités l'ayant connu, tels que André Comte-Sponville, Philippe Descola et Jean-José Marchand. Retrouvez les thèmes forts qui entourent depuis toujours le célèbre anthropologue. Et téléchargez dès maintenant les émissions en libre écoute.
Suite de notre émission, toujours en compagnie d'André Vacheron, nous nous sommes quittés à l'entrée de l'hôpital Necker, André Vacheron. Quels sont les moments forts de la cardiologie pour vous, puisque vous en avez vécu pas mal?
Eh bien, vous venez d'évoquer mon entrée à l'hôpital Necker. Je suis entré à l'hôpital Necker en 1964. En 1964, j'étais encore interne des hôpitaux de Paris. Et donc, j'ai franchi un certain nombre d'étapes, de barrages. Je suis devenu chef de clinique, je suis devenu assistant. Et j'ai passé l'agrégation à 37 ans, en 1970. J'ai le privilège d'obtenir la chaire de cardiologie de l'université René Descartes et de succéder à Jean-Di Matteo à la tête du service de cardiologie de l'hôpital Necker à 48 ans, en 1981.
Alors, je précise, plus jeune agrégé de France à l'époque.
Oh, hein. L'un des plus jeunes. Alors, je suis resté chef de service pendant 18 ans. C'était un grand service, un service de cardiologie, où Jean-Di Matteo avait petit à petit introduit un certain nombre de nouvelles unités, de nouveaux laboratoires. Et quand j'en ai pris la direction, le service est déjà pas mal équipé, mais je l'ai encore amélioré, puisque en 18 ans, j'ai eu le temps de m'entourer d'une équipe extrêmement active et dynamique, avec deux jeunes professeurs, avec deux médecins des hôpitaux, et puis quatre chefs de clinique. Alors j'ai créé à Necker une unité de réanimation de 13 lits, dans laquelle le SAMU qui commençait à se développer, qui venait d'être créé, nous apportait les infarctus, les gens qui avaient syncopé, ou qui étaient en train de mourir, ou qui étaient en grande insuffisance cardiaque. Et donc, nous avons développé toutes les techniques de réanimation avec les chocs électriques, la défibrillation, les pacemakers, et puis...
Tout ça, c'est une technologie qui arrive, en fait, hein, dans
l'effervescence. C'est une technologie nouvelle. Et nous avons, ce qui est tout à fait remarquable, sauvé des gens dont le cœur n'était pas du tout détruit, mais qui allaient mourir par suite d'un trouble rythmique, d'un orage électrique. Nous avons sauvé des cœurs qui étaient trop bons pour mourir. Voilà. Et puis, donc, il y avait les techniques de soins, mais il y avait également les techniques d'exploration. Il y avait deux laboratoires de cathétérisme cardiaque où on a pu réaliser les radiographies des coronaires, les coronarographies, où on a dilaté les artères coronaires rétrécies avec des petits ballons qui étaient gonflés et dont on complétait l'action par la pose de ce que nous appelons des stents, des petits ressorts qui empêchent l'artère de se rétrécir. Et puis, ces techniques de soins, ces techniques d'exploration s'accompagnaient par ailleurs d'une activité de recherche, puisque Jean-Di Matteo a été l'un des pionniers de la cardiologie nucléaire et j'ai participé avec lui au développement de toutes les explorations cardiologiques isotopiques.
Je parlais au cours de cette émission au tout début pour vous présenter, je parlais de scintigraphie, notamment
scintigraphie l'arrivée de la scintigraphie. Oui, il est évident que dans toute la mesure du possible, on évite les explorations dites invasives. Ce n'est pas un très bon mot, mais enfin, nous les appelons comme ça en cardiologie, les explorations où on monte des sondes dans le cœur. Les explorations non invasives, justement, permettent de faire le point, d'affirmer un diagnostic dans des pathologies qui sont complexes, et la scintigraphie en est une. On injecte un isotope et on regarde s'il y a des zones du cœur qui fixent mal l'isotope parce qu'elles sont mal irriguées. Et puis, en même temps, on a eu d'autres techniques comme l'échographie cardiaque qui se sont développées avec les ultrasons.
De même, dans ma présentation, je précisais que vous étiez cardiologue, mais également cardiologue-chercheur.
J'ai été cardiologue-chercheur en développant toutes ces techniques de cardiologie nucléaire. Toutes ces techniques de cardiologie nucléaire qui nous ont permis de mesurer le débit coronaire sans mettre de sonde dans le cœur, qui nous ont permis d'évaluer les dégâts après un infarctus myocardique ou de reconnaître une mauvaise irrigation du cœur dans certaines pathologies comme le diabète, où malheureusement la maladie coronaire est très fréquente et souvent silencieuse. Et avec ces techniques isotopiques, on peut détecter une maladie coronaire silencieuse et intervenir avant que le diabétique ne fasse un infarctus.
Alors là, nous étions sur les moments forts de la cardiologie sur le plan technique, on va dire. Quels sont, sur le plan humain, les moments forts que vous gardez en mémoire? J'imagine avec vos patients et peut-être aussi avec vos confrères.
Oh, les moments forts, c'était effectivement des moments de réanimation. Je me rappelle d'un vieux professeur qui est mort dans l'unité de réanimation de Necker, que nous avons pu ramener à la vie par massage cardiaque, par choc électrique. Et après, je lui ai demandé s'il lui restait quelque chose de ce passage, probablement en tout cas d'un arrêt de vie de quelques secondes. peut-être même de quelques minutes. Et il m'a dit qu'il s'était vu dans un tunnel avec une lumière au fond, des flammes. Et c'est un récit que l'on retrouve très souvent chez les patients que l'on ramène à la vie après un arrêt cardiaque. Alors, je ne sais pas si ça correspond vraiment à quelque chose de tangible. En tout cas, c'est un récit que font souvent les patients qui ont eu un arrêt cardiaque. Ils se voient dans un tunnel avec une lumière au bout, des flammes au bout. Bon. Et puis, j'ai eu aussi des malades qui m'ont tellement angoissé que je suis parti un soir, on m'appelait parce que j'avais créé cette unité de réanimation. Au début, j'étais un petit peu seul pour la faire tourner. Je suis parti un soir en oubliant de mettre mes chaussettes dans mes chaussures, pieds nus dans mes chaussures. Ça, ça avait beaucoup marqué ma femme. Pour arriver plus vite près du malade.
Et on est là aussi dans cette vie vouée aux patients.
Absolument, absolument. Et par contre, j'ai eu un jour un malade célèbre qui était ici un des membres de cette Académie des sciences morales et politiques qui m'avait appelé parce qu'il respirait mal et je lui ai découvert une pleurésie en l'examinant. Et il m'a dit « Qu'est-ce que vous entendez avec votre auscultation ?» Je lui ai dit « J'entends le silence ». Alors, il est resté bouche bée, il m'a dit « Vous entendez le silence ?» Et je lui ai dit « Oui, parce que vous avez du liquide dans la plèvre qui entoure votre poumon, et ce liquide empêche la transmission des bruits de votre poumon. » Ah, il m'a dit « Je ne savais pas qu'on pouvait entendre le silence. »
Venons-en à un terme qui revient beaucoup dans votre parcours, c'est la prévention. La prévention, alors pendant un temps, vous présidez la Fédération française de cardiologie, à différencier d'ailleurs de la Société française de cardiologie, vous me l'avez dit en préparant cette émission.
Tout à fait. J'ai présidé la Fédération française de cardiologie pendant 4 ans, de 1987 à 1991. Et cette institution qui n'a cessé de se développer depuis sa création, cette institution a en charge la prévention des maladies cardiovasculaires de façon tout à fait institutionnelle. Nous avons d'ailleurs été grande cause de santé publique pendant ma présidence. Et donc, nous nous sommes battus contre ce que j'appelais les quatre bourreaux du cœur, c'est-à-dire le tabac, l'excès de cholestérol, l'hypertension artérielle, la sédentarité.
Alors, justement, en tant que médecin, et vous faites encore des consultations, j'imagine que vous êtes confronté à des gens qui ont tout ça, hein, cholestérol,
oui,
sédentarité, hypertension, tabac. Quel est votre discours face à ces personnes qui ont un peu tous ces bourreaux du cœur? Est-ce que vous leur faites peur? Est-ce que ça marche?
Non, je ne leur fais pas peur. J'essaie de leur expliquer ce qui va se passer s'ils continuent à mal vivre. S'ils continuent à prendre du poids, ils risquent de devenir diabétiques. S'ils ne traitent pas leur cholestérol, petit à petit, il va y avoir des taupinières de graisse qui vont se déposer dans leurs artères pour les obstruer, les boucher. S'ils ne traitent pas leur hypertension artérielle de façon permanente, continue, quotidienne, eh bien, ils vont faire un jour un accident cérébral où ils vont démolir leur cœur, car l'hypertendu finit par une insuffisance cardiaque s'il n'a pas un accident cérébral.
Mais est-ce que ça vous arrive de les disputer parfois, de les secouer un peu, vos patients?
Ah, il m'est arrivé de dire à des malades récalcitrants et absolument impénitents, c'est pas la peine de venir me revoir, puisque vous, il n'y a pas moyen pour vous d'arrêter de fumer. Vous continuez à fumer de façon abominable, eh bien, vous allez le payer, parce qu'il faut bien que vous sachiez, Élodie, que le tabac tue la moitié de ses adorateurs. Un fumeur qui a fumé pendant 20 ans va, une fois sur deux, mourir du tabac. Un cancer du poumon, mais un cancer qui peut se trouver ailleurs, un cancer de la vessie, un cancer du pancréas. Et chez la femme, un cancer du sein. Actuellement, les femmes ont de plus en plus de cancer du sein parce qu'elles fument de plus en plus. Et donc, le tabac tue la moitié de ses adorateurs. Malheureusement, quand on a 20 ans, on ne croit pas à cela. Quand on a 40 ans, on commence à réfléchir. L'hypertension artérielle, maintenant, on peut parfaitement la contrôler. Si on ne la contrôle pas, là aussi, elle finira par vous tuer.
Écartons-nous de la cardiologie, si vous le voulez bien, pour en venir à la sécurité. Alors, il y a deux types de sécurité qui sont votre fer de lance. Le premier, c'est la sécurité alimentaire.
Oui, effectivement, pendant près de 8 ans, j'ai présidé un comité scientifique qui était le comité scientifique de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution, la FCD, dont le président est toujours Jérôme Bédier. Et ce comité avait été créé en 1997, précisément par Jérôme Bédier, au moment de la crise de la vache folle. À l'époque, cette crise de la vache folle qui débarquait en France a réveillé dans chaque consommateur, chez tous les citoyens français, comme elle l'a fait d'ailleurs après en Europe et en Angleterre auparavant, la peur du risque alimentaire. Et il faut savoir qu'il y a deux risques alimentaires, deux types de risques alimentaires. Il y a les risques immédiats. Les risques immédiats, vous avalez des huîtres avariées, des moules de mauvaise qualité qui apportent ce qu'on appelle les salmonelles, une bactérie qui va provoquer des gastro-entérites fébriles, souvent en cause dans les intoxications collectives, vous savez, des pensionnats ou des casernes. Et puis, mais il y a tout de suite germes qui peuvent donner des intoxications. Il y a les staphylocoques dorés. Les staphylocoques dorés, ce qu'il faut bien souligner, c'est que très souvent, ces intoxications alimentaires surviennent à partir d'aliments mal conservés dans des réfrigérateurs insuffisamment froids. La température de conservation convenable des aliments, c'est 3 à 5 degrés. Et il y a quelques années, on ne savait pas très bien tout cela. Et les personnes, surtout les personnes âgées, conservaient de la charcuterie, conservaient des rillettes à 10-12 degrés et s'intoxiquaient. Ça, c'était le risque immédiat avec d'horribles intoxications alimentaires, des diarrhées épouvantables, des vomissements. Et puis, il y a les risques à longue échéance. Les risques à longue échéance qui sont des sources de maladies graves qui peuvent apparaître quelques années, quelques dizaines d'années après l'introduction de l'agent pathogène dans l'organisme. Et c'est le cas de la maladie de la vache folle, la nouvelle forme de maladie de Creutzfeldt-Jakob qui est apparue en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni en 1996. Et c'est une maladie très grave du système nerveux qui se termine par la démence, qui se termine par la paralysie, qui va vous tuer en 2-3 ans une fois qu'elle est apparue, même parfois en moins de 2-3 ans, et qui est due à l'ingestion de prions à partir de viande qui avait été mal préparée pour mal stériliser, pour stériliser à partir de vaches contaminées par le prion, parce que ces vaches, qui étaient des vaches anglaises, des vaches du Royaume-Uni, avaient été nourries avec des farines d'os et de viande qui avaient été mal stérilisées. Pour que les farines de viande et d'os soient bien stérilisées, il faut les chauffer à 133 degrés, les chauffer sous 3 atmosphères. Et pour faire des économies, les industriels de l'agroalimentaire en Angleterre avaient baissé les températures de stérilisation. Leurs vaches ont été nourries avec des farines d'os et avec des farines de viande, car au Royaume-Uni, on manque de prairies. Et ces vaches mal nourries ont eu la maladie de la vache folle. Et ces vaches qui étaient infectées avec la maladie de la vache folle l'ont transmise à l'homme.
Alors, quel était, et après nous marquerons une deuxième pause, pourquoi vous, le cardiologue André Vacheron, vous êtes-vous intéressé à la sécurité alimentaire ?
On est venu me chercher parce que je m'étais beaucoup intéressé à l'intérêt des poissons. Les poissons contiennent des acides gras oméga-3 qui sont des protecteurs de l'artère, qui sont des protecteurs qui agissent contre la thrombose, la formation des caillots. Et donc, j'avais travaillé sur ces acides gras oméga-3. Donc, je m'étais intéressé à l'alimentation dans mon domaine, la cardiologie. Et comme je commençais un petit peu à être connu, on est venu me chercher pour présider le comité scientifique de la sécurité de l'AFCD.
Merci André Vacheron. On marque une deuxième pause et on se retrouve dans quelques instants pour parler encore sécurité, mais cette fois-ci de sécurité professionnelle. À tout de suite.
À l'heure du réchauffement climatique, le regard des scientifiques et des politiques se tourne sur les pôles de notre planète. Quelle est la place de la recherche française dans les régions polaires ? Christian Gaudin, membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, est le premier parlementaire français à s'être rendu en Antarctique. Il nous fait part de cette expérience unique. La recherche polaire, se donner les moyens de l'excellence, une émission éclairage, les rapports du Sénat à télécharger librement sur le site canalacademy.com.
Suite de notre émission en habit vert en compagnie d'André Vacheron. Dans cette troisième partie d'émission, on va parler de sécurité professionnelle. Nous parlerons également du métier de médecin et de votre siège à l'Académie des sciences morales et politiques. Mais avant, revenons à la sécurité alimentaire. On s'est quitté sur la sécurité alimentaire. Vous vouliez rajouter quelques mots sur la traçabilité et l'étiquetage.
Oui. Eh bien, à partir de 1997, à partir de la maladie de la vache folle, pour augmenter, pour améliorer la sécurité alimentaire, on a constaté que la traçabilité était fondamentale. Il est évident que dès qu'on a identifié la cause de la nouvelle maladie de Creutzfeldt-Jakob, ce qu'on appelle le nouveau variant, et qu'on s'est aperçu que c'était des vaches contaminées par des farines d'os et des farines animales mal stérilisées, on a interdit l'utilisation, l'introduction des vaches du Royaume-Uni dans notre pays. Et puis, on a demandé à ce moment-là que les viandes aient une traçabilité, car les Français voulaient savoir s'ils mangeaient bien une vache du Morvan et pas une vache qui venait d'un élevage londonien ou d'un élevage du Royaume-Uni. Donc, la traçabilité est devenue une exigence primordiale pour les distributeurs, tout autant que l'étiquetage. L'étiquetage, nous nous battons pour que l'étiquetage soit aussi précis que possible, car il permet, d'une part, d'avoir des informations sur ce que l'on mange, et d'autre part, il permet d'avoir le droit au choix. On choisit ce que l'on va manger. Et en plus, pour nous, médecins, c'est un élément très très important de la prévention des maladies cardiovasculaires, car l'étiquetage doit vous indiquer la teneur des aliments en sodium, en sel, en lipides, en graisse, et puis en sucre. Et avec ces éléments-là, quand un malade est diabétique, quand un malade a trop de cholestérol, eh bien, il peut choisir ses aliments dans les rayons des grandes surfaces.
L'information est donnée. Venons-en à la sécurité professionnelle. Alors, par sécurité professionnelle, il faut entendre les accidents médicaux des professionnels de santé, tels que les anesthésistes, c'est à eux qu'on pense le plus souvent, mais également les chirurgiens, les gynécologues obstétriciens. Est-ce qu'il y a beaucoup d'accidents médicaux en France, André Vacheron ?
Oui, alors comment ai-je abordé cette sécurité professionnelle ? Eh bien, je préside depuis plusieurs décennies le conseil médical du sous-médical. Et le sous-médical, c'est la principale mutuelle d'assurance des médecins français au sein d'un grand groupe d'assurance qui est la mutuelle d'assurance du corps sanitaire français. Et il y a bien évidemment des accidents médicaux dans notre pays comme dans tous les pays. Et nos mutuelles médicales prennent en charge la défense et justement l'assistance des médecins qui ont des accidents médicaux. Et tout particulièrement, nous nous occupons des événements indésirables liés aux soins. Alors, il y a deux types d'aliments indésirables. Il y a l'aléa thérapeutique. Tout s'est bien passé, un chirurgien a parfaitement bien opéré, et puis il y a un accident inopiné qui était imprévisible. C'est ce qu'on appelle l'aléa, et le médecin n'est pas fautif. Et puis, il y a l'erreur active. L'erreur active où là, l'accident est fautif. L'erreur active qui est liée à une défaillance humaine, par exemple une infirmière qui s'est trompée d'une poche sanguine, qui a mis un mauvais groupe sanguin.
Ou qui s'est trompée dans le dosage d'un médicament.
Ou qui s'est trompée dans le dosage d'un médicament ou dans l'administration d'un médicament qui n'était pas du tout indiqué par le médecin. Injecter, délivrer de la novocaïne à 10% n'est pas la même chose que d'injecter de la novocaïne à 1%. Et on peut avoir des conséquences épouvantables. Et donc c'est une erreur qui est souvent une erreur systémique. Il y a plusieurs maillons de la chaîne de santé qui sont en cause et ça peut se terminer par la mort du malade. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a en France chaque année 150 000 accidents graves et évitables qui surviennent lors d'un séjour hospitalier. 150 000 accidents graves. Deux exemples, l'hémorragie cérébrale par surdosage d'un médicament anticoagulant. L'infection grave après une opération chirurgicale chez un malade qui, par exemple, est opéré de cataracte et arrive à l'opération de cataracte avec une horrible rhinopharyngite ou un furoncle quelque part et il risque de perdre son œil par fonte purulente.
Mais tous les auditeurs qui nous écoutent ne vont plus vouloir se faire opérer, professeur Vacheron.
Mais si, parce que les médecins sont parfaitement au courant des dangers de conduite à risque. Et donc, les médecins prennent toutes les précautions pour éviter ces risques. On n'opère pas de cataracte à un malade qui est infecté. On surveille de façon très attentive les traitements anticoagulants. En tout cas, sur les 150 000 accidents graves évitables qui surviennent chaque année dans d'autres pays, il y aurait plus de 10 000 morts.
Là aussi, ça fait peur,
eh ben oui,
pour
sûr,
dire que ça fait réfléchir, mais ça fait surtout peur.
Alors, il y a des disciplines où la fréquence des mises en cause des médecins sont particulièrement élevées. C'est le cas de la chirurgie, c'est le cas de l'anesthésie, et puis c'est le cas de la gynécologie obstétrique, de l'obstétrique, des accouchements. Et ce qui mérite d'être signalé, c'est qu'il y a une judiciarisation croissante des sinistres. Pour vous donner quelques chiffres, le taux des condamnations s'élève régulièrement depuis 1980. En 1980, le taux des condamnations de médecins qui se retrouvaient devant un tribunal, en correctionnel, était de 33%. Et en 2007, sur 402 décisions de justice, les médecins ont été condamnés dans 68% des cas. Ce pourcentage atteint 75% en chirurgie et 74% en anesthésie et réanimation.
Et les chiffres que vous avez, pardon, professeur Vacheron, est-ce qu'on observe une recrudescence ou c'est justement parce que vous parlez à juste titre d'une judiciarisation ?
Il y a autrefois, quand survenait un accident médical, mon Dieu, on expliquait à la famille que ça faisait partie des risques de l'opération, des risques de l'accouchement, et les familles ne poursuivaient pas tellement, n'attaquaient pas tellement le médecin. Alors que maintenant, d'une part, les familles attaquent, ne supportent pas qu'il y ait eu un accident médical, et surtout refusent d'accepter l'accident médical fautif, même l'aléa, il faut prouver que c'est bien un aléa, et d'une part, et d'autre part, les magistrats frappent de plus en plus lourdement les médecins qui ont commis une faute. Et alors, je vous donne encore un chiffre. Le taux moyen des indemnisations par dossier corporel fautif est de 256 000 euros. Et certains dossiers en obstétrique un enfant qui vient avec un épouvantable retard psychomoteur, qui va être un grand infirme psychomoteur toute sa vie, eh bien, certains dossiers peuvent dépasser le million d'euros. Et vous voyez que l'assurance est vraiment utile pour ces praticiens qui sont ainsi condamnés. C'est parce que c'est l'assurance qui va payer.
Et j'imagine que ces médecins ont d'autant plus de difficultés maintenant à s'assurer.
Les médecins, surtout en obstétrique, paient des primes d'assurance qui sont de plus en plus élevées, qui sont de 20 à 30 000 euros par an. Eh oui. Mais quand la compagnie doit payer 1 million d'euros, vous comprenez que la mutuelle est obligée d'augmenter les primes d'assurance puisque l'assurance est mutualisée. Alors bien évidemment, le médecin généraliste ne va pas payer 20 000 ou 30 000 euros, il va payer quelques centaines d'euros. Mais comme c'est mutualisé, ça va être lissé sur l'ensemble des assurés, des sociétaires. Mais malgré tout, les spécialités à risque paient de lourdes primes d'assurance à leur mutuelle. Elles sont obligées d'en venir là. Pourquoi paie-t-on 1 million? Pourquoi les tribunaux vont-ils vous condamner à 1 million d'euros d'indemnité? Eh bien parce qu'un infirme psychomoteur peut avoir besoin d'une tierce personne toute sa vie, même après la mort de ses parents.
André Vacheron, nous arrivons à terme de notre émission. Il y a encore deux questions essentielles que j'aimerais vous poser. L'idée, c'est de répondre à ces questions en 3 minutes. Première question, comment le cardiologue que vous êtes, professeur Vacheron, est devenu membre de l'Académie des sciences morales et politiques?
Je pense que je suis devenu membre de l'Académie des sciences morales et politiques parce que j'avais une certaine aura dans mon métier de médecin, dans la communauté médicale. J'avais présidé l'Académie nationale de médecine. J'avais été le deuxième cardiologue en 200 ans à présider l'Académie de médecine, puisqu'il n'y en avait eu qu'un avant moi, qui était Charles Laubry. Et la présence de l'Académie de médecine est un élément qui a certainement joué en ma faveur lors de mon parcours électoral. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que je pense que j'avais aussi une bonne réputation d'humaniste dans mon métier.
Deuxième question, est-ce que le médecin est devenu un super technicien aujourd'hui?
Oui, le médecin actuellement devient de plus en plus un ingénieur. Un ingénieur, je crois que je vous le disais au début, un ingénieur en machinerie humaine. Et le technicien pur n'est plus habité par la médecine. La médecine, pour moi, c'est un artisanat qui doit rester un artisanat créateur, où chaque geste doit rassembler tout ce qu'on a appris en technique, mais également en humanité. Et quand j'étais le patron de mon service de 71 lits, je le suis resté pendant 18 ans, j'essayais toujours de conjuguer qualité des soins et humanisme, et j'essayais de transmettre aux gens qui m'entouraient, à mes élèves, aux infirmières, à tout le personnel qui travaillait avec moi, j'avais à peu près 100 personnes sous mes ordres, un esprit de partage et un esprit de service.
Merci André Vacheron. Alors je précise pour nos auditeurs qu'ils pourront vous retrouver sur Canal Académie aux côtés d'Hélène Renard pour une émission consacrée à l'Observatoire National de la Fin de Vie. Je n'en dis pas plus, les auditeurs écouteront cette émission. Il me reste à vous remercier une nouvelle fois et à vous dire à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.
Merci Elodie.